d'autres lésions, toujours de la clinique dermatologique. Et une autre lésion que je voulais vous montrer, elle m'a été confiée par un dermatologue parisien. Et bien, vous voyez là, la lésion a toujours cet aspect d'agrandissement, d'extension périphérique. Par contre, vous voyez, elle est entièrement rouge. Donc, ce n'est pas toujours aussi facile que ça à diagnostiquer, mais il faut le savoir. Alors, pourquoi la piqûre de tic passe parfois inaperçue? Eh bien, vous voyez, même dans des zones où elles sont aisément visibles, il est parfois pas évident de les repérer rapidement. Vous voyez, la tique ici, qui a piqué cet enfant, qui est localisée entre les cils, au niveau de la paupière inférieure. Donc, avant le repassant bien, elle est vraiment toute petite. Donc, si vous avez ça au milieu des poils sur vos jambes, il est évident qu'on ne les repère pas forcément tout de suite. Alors, ce dont je voudrais parler concernant cette maladie, c'est l'évolution naturelle ou sous-traitement de cette maladie. Alors, je suis parti donc de l'hypothèse de ce que l'on voit dans notre région, qui est un taux d'infestation des tiques qui varie de 3 à 26%. C'est la situation que l'on a en Alsace, c'est la situation que l'on a au niveau de l'Allemagne, dans la région de. Quand on est piqué par une tique infectée, ce qu'il faut savoir, c'est que dans 5% des cas, cela va évoluer vers une maladie. Et dans 95% des cas, heureusement pour nous, notre système immunitaire va être capable spontanément de faire avorter l'infection et les choses vont rester là. Elles vont rester là, néanmoins, on va trouver dans notre sang la trace du passage de cette bactérie avec la présence d'anticorps vis-à-vis de cette bactérie. Alors j'ai écrit séroconversion simple par opposition au cas maladie, puisque là il s'agit des cas où on aura une trace du passage de cette bactérie sans qu'il y ait ensuite de maladie. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le cas où il y a maladie? Eh bien, il y a deux cas de figure. Vous avez l'infection localisée, c'est l'érythème migrant dont je vous ai parlé assez longuement précédemment. Et ça représente dans toutes les études européennes, eh bien, 85, voire plus, de cas. Donc, dans 85% des cas, il va s'agir de l'érythème migrant que je vous ai montré. Donc, il est essentiel de savoir le reconnaître. Et puis, dans 14% des cas, on va avoir des manifestations disséminées. Les 2% qui sont là, j'y reviens dans un instant. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas d'une infection localisée? Eh bien, dans 92% des cas, on va avoir une guérison spontanée. C'est la guérison dont je vous ai parlé. En l'absence de traitement, on va guérir. La question est-ce qu'on va guérir ou est-ce qu'on va évoluer vers ces 8% de manifestations disséminées? Par manifestation disséminée, c'est ce que je vais vous présenter, manifestations particulières, neurologiques, cardiaques, oculaires, etc. Ces manifestations disséminées seront, elles, bien sûr, toujours traitées. Alors, juste une petite erreur de ces diapositives que j'ai fait un peu tardivement, vous m'excuserez, c'est la guérison sous traitement hein, qui est là. L'infection localisée, comme je vous disais, elle va guérir de façon spontanée dans 92% des cas, et ensuite elle va guérir sous traitement dans l'immense majorité des cas. On estime que cela va guérir, et il peut y avoir une évolution vers des manifestations chroniques, soit dans 1% des cas à partir des manifestations disséminées, traitées, non pas spontanées, traitées, malgré un traitement bien conduit, ou dans un petit pourcentage des cas à partir de l'éclatement, ou bien à partir des cas qui sont passés inaperçus, aboutissant à des manifestations chroniques, le stress initial, dans le cas où on n'a par exemple pas vu l'érythème migrant. Alors, pourquoi c'est évalué à 2% c'est sur la base de l'observatoire des données allemandes que ces chiffres ont été déterminés. Alors, ces manifestations disséminées, quelles sont-elles? Eh bien, ça peut être l'érythème migrant dont je vous ai parlé sous des formes multiples. C'est quelque chose qu'on voit rarement en Europe, principalement aux États-Unis. Ça peut être une tuméfaction qu'on appelle lymphocytome cutané bénin ou lymphocytome aurélien. Là, vous avez une localisation au niveau du lobe de l'oreille, là, une autre lésion, donc une sorte de tumeur cutanée, mais une tumeur bénigne. Ça peut être sous la forme de manifestations neurologiques. Ce sont les plus fréquentes en différence des États-Unis où ce sont plutôt les manifestations articulaires qui sont les plus fréquentes. Et il y a deux types de manifestations principalement qui sont observées à ce stade-là. C'est soit la méningomaniculite dont je vous ai parlé tout à l'heure, soit la paralysie faciale, qui est une manifestation qui touche presque exclusivement l'enfant, avec une paralysie de l'hémiface droite dans le cas de cet enfant. Alors il peut aussi y avoir des atteintes rhumatologiques, alors elles sont assez particulières, elles peuvent toucher l'homme comme l'animal, là vous en avez un exemple sur un bovidé, et elles vont se traduire par un gonflement important du genou, et elles vont toucher une ou deux articulations. Quand il s'agit de plusieurs articulations ou d'articulations touchant les petites articulations, comme les articulations des mains, il ne s'agit pas d'une maladie de Lyme. D'autres manifestations sont possibles. Il peut y avoir des atteintes cardiaques, notamment des troubles du rythme cardiaque. Il peut y avoir des atteintes musculaires ou des atteintes oculaires, comme cette image assez sévère que l'on voit au niveau du fond de l'œil. Ensuite, les choses peuvent, comme je l'ai expliqué, en rester là, ou bien on peut évoluer vers un stade chronique avec deux types de manifestations, trois types, deux que je vous montre sur cette diapositive, des arthrites dont je vous ai parlé qui peuvent évoluer sur un mode chronique, ou des manifestations neurologiques, et cette lésion au niveau du stérieur de ce patient, donc sous forme de manifestations chroniques, soit périphériques, soit centrales, comme celle qui est montrée ici. La plus classique des manifestations tardives, c'est la manifestation dont j'ai commencé à vous parler en introduction, c'est ce qu'on appelle l'acrodermatite chronique atrophiante, d'où l'acronyme ACA. C'est une manifestation qui n'est quasiment décrite qu'en Europe. Il y a peut-être moins de 5 cas décrits aux États-Unis. Ça se traduit par ces aspects très bien au niveau de la peau. Il s'agit d'une patiente jeune ou d'un patient ici jeune. Il va y avoir donc une atrophie de la peau avec le réseau veineux sous-jacent qui transparaît, d'où cet aspect très rouge que vous voyez ici et encore plus net sur cette image de droite. Alors, vous me direz, ok, c'est en règle générale, qu'en est-il au niveau de l'Alsace? Eh bien, il y a 10 ans, tout juste, on avait démarré un observatoire pendant 2 ans pour déterminer la fréquence de ces lésions et leur incidence respective. Et vous voyez, on était arrivé au chiffre dont je vous parlais tout à l'heure, 86-85% d'érythèmes vivants, 14% de manifestations disséminées, avec la moitié d'entre elles qui étaient des neuroboréoses. Alors, ça c'est juste pour vous dire que les animaux domestiques ou sauvages peuvent être aussi touchés. Dans le cas des animaux domestiques, ce sont des données que j'ai empruntées à un collègue vétérinaire de Maison Alfort, et bien que ce soit les chiens, les chevaux, les bovidés, peuvent aussi être touchés. Les différentes manifestations sont observées, comme chez l'homme, sauf les manifestations cutanées, car la peau de l'animal, il est difficile de se faire une idée s'il fait ou pas un érythème migrant. Et il y a une caractéristique chez les animaux, c'est la présence d'atteinte rénale qui n'est pas décrite chez l'être humain. Alors, on parle aussi parfois de syndrome de Post-Lyme. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de Post-Lyme? Si tout veut apparaître. Alors, il s'agit de manifestations qui subsistent après une antibiothérapie correcte, d'une durée correcte et d'une posologie correcte, d'une maladie de Lyme qui a été bien diagnostiquée. Donc il va subsister des signes symptomatiques tels que asthénie, tels que des algies diffuses, tels que des troubles cognitifs. Il est important de le savoir, on sait que le rôle direct de l'agent pathogène n'est pas démontré, plutôt on n'a aucune preuve pour l'instant qu'il puisse être impliqué, et il y a eu plusieurs essais randomisés de retraitement et de re-retraitement de ces patients, même en changeant de protocole, on ne modifie pas l'évolution de ces signes subjectifs. Alors, quelques mots donc sur ces bactéries, les bactéries responsables de cela, ce sont les Borrelia. Les Borrelia sont donc des bactéries en tire-bouchon, dont je vous ai parlé, la taille est peu importante. Je voulais juste vous les montrer en vivant. Voilà. ces bactéries qui bougent, vous les voyez ici sur cette animation, soit sous forme isolée, soit sous forme de papier, puisqu'elles vont se relier les unes aux autres dans la petite image sur laquelle il y a la petite main, au niveau du centre. Alors là, on voit leur structure, pour vous montrer qu'il s'agit de bactéries tout à fait classiques, avec les structures d'une bactérie tout à fait classique. La répartition géographique de ces bactéries va bien sûr se produire à l'endroit où on voit les tiques, avec une particularité, bien c'est en Europe qu'on va observer la plus grande diversité de ces bactéries. Vous voyez les différentes espèces que l'on connaît actuellement qui peuvent être responsables de cette maladie chez l'homme. Elles sont plus nombreuses qu'aux États-Unis où il n'y en a qu'une à ce jour, et plus nombreuses qu'en Asie du Sud-Est, où il va y avoir deux espèces. Alors, le nombre de cas, eh bien, c'est en Europe qu'on observe le plus de cas de maladie de Lyme. Parfois, on n'a pas la notion de cette information. Vous voyez, 65 000 cas sur toute l'Europe, contre 22 000 aux États-Unis et 3 400 en Asie. Donc, une nette prédominance en Europe, ça c'est l'image de tout à l'heure, je la passe. Pour arriver à la situation française, qui est plus intéressante, donc je vous ai donné la fourchette de l'incidence en France, et cette diapositive, c'est pour vous dire qu'il y a une hétérogénéité de la fréquence de cette maladie au sein des départements français, et sur cette image, l'incidence augmente avec le niveau de couleur, avec donc une incidence qui est maximale au niveau de l'Alsace, et qui va être importante aussi en Lorraine, ou au niveau du Limousin. Là, c'est la même carte d'incidence effectuée donc, sur les dernières données. C'est des choses qui ne sont pas encore publiées. Et vous voyez, on retrouve à peu près la même prédominance importante au niveau du Limousin, au niveau du nord-est de la France, et puis par exemple le Nord-Pas-de-Calais, qui est toujours le même. Alors, dans le cadre de cet observatoire, qui est basé sur un réseau des médecins généralistes, ce qu'on appelle le réseau des médecins sentinelles, eh bien, vous voyez qu'on a une incidence qui semble assez stable sur les 5 dernières années. Alors, c'est la raison pour laquelle on pense que l'augmentation par rapport à ce qui avait été montré en l'an 2000 n'est pas une augmentation liée à une aggravation du nombre de tiques infectées ou une augmentation du taux de tiques infectées, mais bien une meilleure reconnaissance de cette maladie. Ça reste bien sûr à prouver sur les années à venir, d'une part en continuant ce suivi année par année, d'autre part en étudiant le taux de tiques infectés comme on le fait depuis quelques années. Alors juste un mot sur les États-Unis, donc, comme je vous disais, vous voyez ce n'est pas l'ensemble des États-Unis, il y a plein d'États américains qui sont totalement indemnes de cette pathologie qui est notamment concentrée autour des Grands Lacs, sur la côte ouest et sur la côte est des États-Unis. La période de contamination, alors il ne s'agit pas, et aussi quelque chose d'important, il ne s'agit pas de vous montrer les mois où on diagnostique la maladie, mais le moment où on risque de se contaminer. C'est pour expliquer le principe de ce qu'on appelle la diapause, c'est-à-dire une période de l'année pendant laquelle les tiques ne vont pas chercher à se nourrir. Eh bien, elles ne vont pas chercher à se nourrir à partir du moment où nos campagnes vont geler, et donc c'est habituellement à partir du mois de décembre, et elles vont continuer à être en pause, ce qu'on appelle la diapause pour les tiques, durant toute la période où la température restera négative. Et à partir du moment où les neiges fondent dans nos forêts, eh bien les tiques vont se mettre en chasse, puisque bien sûr, en n'ayant pas mangé tout l'hiver, elles vont avoir des motivations pour se nourrir. Ensuite, le nombre de cas va monter avec la belle saison, avec un maximum assez classiquement, entre juillet et août, selon les études, puis décroître progressivement à la saison. Ensuite, à quel âge fait-on une borréliose? Eh bien, là aussi, toutes les études européennes sont à peu près dans le même sens. Il va y avoir ce qu'on appelle deux pics. Il y a principalement les jeunes enfants. En fait, il y a d'abord les jeunes enfants. Il va y avoir ensuite, à l'âge de l'adolescence, une diminution du nombre de cas, et puis un accroissement du nombre de cas à partir de l'âge, on va dire, où on devient parent, et puis grand-parent. et voyez ensuite le nombre des croix, vraisemblablement, parce que quand l'âge avance, eh bien, on va peut-être moins se promener en cours. Et on peut imaginer que c'est l'âge auquel les enfants sont le plus avec leurs parents ou avec leurs grands-parents, qui est l'âge auquel ils se contaminent le plus, et qu'ensuite, à l'adolescence, on a d'autres centres d'intérêt, qu'ils soient humains ou sur des jeux ou vidéo par exemple de nos jours, ou alors on peut l'interpréter différemment. J'ai un collègue qui pense que c'est parce que c'est à cet âge-là que les enfants sont plus désobéissants et donc ils vont plus se promener sur les bords des chemins qui sont plus contaminés que les sentiers eux-mêmes. Alors, comment on va faire le diagnostic? Eh bien, le diagnostic de la maladie, il repose non pas en premier sur des tests biologiques, mais il repose en premier sur ce qu'on appelle des données anamnestiques, c'est-à-dire des données d'interrogatoire et d'examen du patient. La première chose, c'est de savoir si le patient est en zone d'endémie, et par exemple sur le littoral méditerranéen, eh bien la végétation n'est pas celle qui permet la survie des tiques. Donc un patient marseillais qui ne va pas au nord d'Arles ne peut pas, par exemple, faire de maladie là. Ensuite, les données importantes, c'est de savoir est-ce qu'il a été mordu ou est-ce qu'il a où il a pu être mordu, et notamment les activités sont quelque chose d'important, puisque c'est d'une part dans le cas d'activités professionnelles, et les bûcherons sont les personnels les plus exposés, ou aussi dans le cas de nos activités de loisirs, et actuellement c'est le plus grand nombre de cas est dans le cas des activités de loisirs, lors de randonnées ou de promenades en forêt. Il est très important de rechercher devant toute manifestation qui peut être évoquée comme étant liée à Borrelia, les antécédents, désolé pour l'abréviation, les antécédents de cet héritage migrant dont je vous ai parlé. Il peut être encore présent, ou bien il va falloir l'expliquer, le montrer au patient pour lui demander est-ce qu'il a eu connaissance d'avoir ce genre de lésion. Alors, ensuite, le diagnostic biologique. Eh bien, ce diagnostic biologique, il va venir soutenir le diagnostic clinique basé sur les données d'interrogatoire dont je vous ai parlé et sur les données de l'examen clinique. Alors, tout serait simple si le diagnostic biologique avait une spécificité telle qu'on voudrait l'avoir, c'est-à-dire une spécificité de 100%. Le problème, c'est qu'on en est rarement là, hormis dans ce qu'on appelle des outils de diagnostic biologique direct, que sont la culture ou que sont les techniques de biologie moléculaire. Le problème, c'est qu'on ne cultive pas les boréliens comme on cultive les staphylocoques utilisés chez les chirurgiens, et que ça nécessite des laboratoires spécialisé parce que le milieu de culture de cette bactérie est très spécifique, elle pousse lentement, la culture est délicate. Bref, on aboutit au fait que très peu laboratoires le font et que d'autre part, surtout, ce n'est pas un bon outil diagnostique parce que la sensibilité est modeste au stade de l'héritage migrant, elle est voire même mauvaise dans les autres manifestations cliniques dont je vous ai parlé. Avec l'avènement des techniques de biologie moléculaire, tout le monde s'est dit, bien, les choses vont être simples, on va utiliser ces techniques de biologie moléculaire, c'est très sensible et ça va marcher merveilleusement bien. Eh bien, on s'est rendu compte que d'une part, ce n'était pas absolu, mais qu'effectivement, ça a amélioré les choses pour les migrants, pour l'arthrite, pour la chondromalacie dont je vous ai parlé. Mais les manifestations les plus fréquentes en Europe, que sont les neuroborrélioses, sont mal diagnostiquées par cet outil et ce n'est pas un bon outil pour faire ce diagnostic-là. Alors, en pratique, eh bien, pour ces raisons-là, on va utiliser la sérologie. Le plus souvent, puisque les autres outils sont très rarement utilisés. Alors, cette sérologie va être pratiquée en deux temps, ce qu'on appelle une technique de dépistage, puis des techniques de confirmation. Alors, les techniques de dépistage, ce sont ce qu'on appelle actuellement, il y en a d'autres, mais c'est dans 98% des laboratoires, elles sont basées sur les techniques ELISA. Et puis ensuite, on va utiliser des techniques de confirmation qu'on appelle Western Blot, ou si on reste sur les dénominations françaises, qu'on appelle immuno-empreinte. Alors, pourquoi utiliser une méthode en deux temps? D'abord, une technique de dépistage, puis une technique de confirmation. Eh bien, c'est parce que malheureusement, la spécificité de la méthode utilisée au stade de dépistage, les méthodes ELISA ou leurs équivalents ne vont pas faire mieux, ne dépassent que rarement les 90%. Donc ça fait 10% des cas qui vont être non spécifiques. Alors 10% des cadres spécifiques, ça vous paraît peut-être peu important, mais malheureusement, pour des... c'est un petit peu difficile à expliquer, mais pour des, quand on calcule ce qu'on appelle les valeurs prédictives du résultat, avec une spécificité de seulement 90%, eh bien on a de fréquents faux positifs. Donc, quel que soit le test qui va être utilisé, il y aura une nécessité de bien définir les seuils, la spécificité et la sensibilité des tests. Et ce qu'on attend ensuite d'un test de confirmation, c'est avoir une spécificité qui soit meilleure, sinon il n'y a pas d'intérêt à faire un test de confirmation, et cette spécificité est définie selon les normes européennes comme devant être d'au moins 95%. Et c'est par le croisement de ces deux techniques appliquées séquentiellement, d'abord la première, puis si la première est positive, appliquer la deuxième, qu'on arrive à avoir un test qui soit sur lequel on puisse s'imposer, s'appuyer pour, définir le diagnostic du patient. Alors, c'est important de travailler en deux temps à cause de nombreuses réactions croisées qui sont possibles. Alors, une ligne que je n'ai pas indiquée ici, c'est le fait que cette sérologie ne doit être appliquée que sur les manifestations disséminées. Alors, pourquoi ne l'utiliser que sur les manifestations disséminées? Eh bien, parce qu'au stade de l'érythème migrant, que je vous ai montré, sur lequel j'ai insisté, on sait que la sérologie est peu sensible. Elle n'est positive que dans un cas sur deux, ce qui est tout à fait insuffisant. Donc, les recommandations européennes, je crois que j'ai une diapositive un petit peu après, sont de ne pas utiliser la sérologie pour faire ce diagnostic d'érythème migrant. Et donc, le diagnostic de ces formes localisées cutanées initiales est un diagnostic qui est clinique, qui doit être fait par le médecin traitant, ou s'il a un doux diagnostic, il doit référer à un dermatologue de façon à faire ce diagnostic. Donc, il y a un problème de sensibilité, mais à ce stade initial de la maladie. Dans les stades suivants, la sérologie est un bon outil diagnostique à condition de savoir l'utiliser. Pour savoir l'utiliser, eh bien, il faut avoir la notion de ces réactions croisées. Donc, tout positif par les techniques ELISA ou équivalentes doit faire l'objet, en France, ce n'est pas le cas dans tous les pays d'Europe, mais doit faire l'objet d'une technique de confirmation, car il peut y avoir d'autres maladies qui n'ont rien à voir avec la maladie de Lyme, qu'elles soient infectieuses ou non infectieuses, qui donnent une séropositive. D'autre part, une notion qui est tout à fait importante, c'est que ce diagnostic est là pour soutenir les signes cliniques. On ne fait pas la sérologie d'abord et on se demande ensuite ce qu'a le patient. Pourquoi? Eh bien parce qu'on manque malheureusement, cruellement, d'un marqueur capable de dire que le patient a une forme active de la maladie. Et donc devant une sérologie positive, on a uniquement la confirmation de ce dont je vous ai parlé au départ, c'est-à-dire que le patient a été exposé à cette bactérie. Donc, une notion tout à fait importante, c'est le fait qu'il est séropositif, ça ne veut pas dire qu'on établit le diagnostic sur la base de la sérologie. À ce moment-là, ça serait un outil diagnostique de la maladie à lui tout seul, et ce n'est pas le cas. D'autre part, il y a parfois des confusions qui sont faites. Le fait que le patient ait des IgM ne veut pas dire forcément qu'il s'agit d'une infection récente, ou ne veut pas dire non plus forcément qu'il ait une infection active. Les patients avec la chrodermatite que je vous ai montrée tout à l'heure, eh bien, ont des anticorps de type IgM dans 15% des cas, donc il s'agit d'une maladie qui évolue depuis des années. Et enfin, autre cas, dans le cas des neuroborrélioses, des manifestations disséminées dont je vous ai parlé, il est important par contre de savoir compléter le diagnostic sérologique fait au niveau du sang circulant par malheureusement des examens plus invasifs en réalisant une sérologie sur le liquide céphalo-rachidien du patient. Alors, le rôle de l'immunoempreinte, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est de confirmer la spécificité de ces anticorps. Et malheureusement, là aussi, au niveau du Western Blot, on n'a pas de protéines, on n'a pas de marqueur valable d'une infection active, du moins à ce jour. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Là aussi, c'est exactement ce que je vous ai dit. Il est important, dans le cas où des sérologies sont comparées les unes aux autres, d'une part qu'elles soient comparées dans le même laboratoire, pour voir s'il y a réellement augmentation, et la chute de maladie du Lyme, eh bien, ne se juge pas sur l'augmentation des anticorps, elle se juge sur les signes cliniques que présente le patient. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors ça, c'est un algorithme diagnostique tel que nous l'utilisons et tel qu'il est utilisé, par exemple, par le centre de référence des Bovania aussi en Allemagne, de façon à pouvoir séparer un petit peu les choses. Alors ça, je vais passer, parce que j'ai été un petit peu long sur le reste, pour parler de la prévention. Alors, la prévention, quelque chose qui me paraît tout à fait important. Alors, dans la prévention, il y a ce qu'on appelle la prévention en prophylaxie, il y a ce qu'on appelle la prévention primaire et ce qu'on appelle la prévention secondaire. La prévention primaire, c'est celle qui consiste à éviter tout contact avec les tiques, et notamment ça se fait par l'intermédiaire de vêtements couvrants, ou alors par l'intermédiaire de répulsifs qu'on va appliquer soit directement sur la peau, soit sur les vêtements. La prévention secondaire, eh bien, c'est quand la première n'a pas été efficace, et qu'on constate qu'il y a des tiques sur soi, eh bien, on va les extraire, et pour pouvoir les extraire, il faut s'inspecter. Et là, j'insiste sur un point, c'est la nécessité que l'inspection cutanée soit complète, de façon à n'oublier aucune zone. Donc il est bien de s'inspecter à deux, de façon à ce qu'on n'oublie aucun endroit, notamment par exemple dans le dos. Cette inspection aboutissant à un retrait des tiques est totalement efficace si le retrait intervient dans les 7 heures, et il est extrêmement efficace si le retrait intervient dans les 24 heures. Donc plus il est précoce, plus il est efficace, et vous voyez que si on le fait dans les 7 heures, c'est-à-dire au retour d'une promenade, eh bien, on ne court pas de risque. Alors, les vêtements longs et fermés, j'ai rajouté cette diapositive parce que parfois on me demande qu'est-ce qu'on peut utiliser comme répulsif. C'est votre pharmacien qui sera le mieux à même de vous conseiller. Il faut séparer la situation de l'enfant et de l'adulte. Il y a différents produits chimiques qui peuvent être utilisés et un seul actuellement est validé chez la femme enceinte. Après, il y a des répulsifs vestimentaires. Ces répulsifs vestimentaires ne doivent pas être confondus avec les répulsifs cutanés, sous peine de problème pour le patient. Et la permétrine est à utiliser uniquement sur les vêtements et encore pas chez les jeunes enfants, parce qu'on a un risque de passage, la peau d'enfant étant très fine. Il faut savoir que ces répulsifs n'empêchent pas, ne doivent pas empêcher de s'observer, car l'efficacité est importante, mais elle n'est pas complète, et donc la prévention par l'observation est quelque chose qui reste tout à fait indispensable. L'extraction. Alors comment et pourquoi enlever la tique? Alors, enlever les tiques, eh bien, le plus tôt possible, hein, je vous l'ai dit, dans les 24 heures, c'est très efficace, encore plus tôt, c'est mieux. La base, c'est de n'utiliser aucun produit, ni anesthésique, ni éther, ni huile, ni pétrole, ni brûlure de cils, ni cigarette pour brûler la tique. C'est des choses qui sont parfois faites. On va enlever la tique, on y revient. Et ensuite, après l'avoir enlevée, ben, les choses ne sont pas finies. Vous avez vu que la tique est profondément enchâssée dans la peau. Donc il est important de bien désinfecter la zone de piqûre et ensuite de se laver les mains au cas où il y aurait eu des déjections de la tique sur nos mains. Et ensuite, un point tout à fait essentiel, c'est pendant 4 semaines, se surveiller au niveau du point de piqûre, c'est la surveillance locale, pour voir s'il apparaît ou s'il n'apparaît pas un érythème migrant, et se surveiller pendant 4 semaines. L'immense majorité des érythèmes migrants surviennent ces 4 semaines, et au niveau français, on rajoute le fait de surveiller la survenue d'un malaise général. Pourquoi? Eh bien, c'est pour prévenir les quelques pourcentages de cas qui échapperaient à l'érythème migrant et passerait directement au stade de manifestation disséminée, et ça se fait par la présence de signes généraux. Alors l'extraction, je vous rappelle le problème, c'est le rostre de la tique qui est ici, hérissé de tous ces petits harpons dans tous les sens. Avec la traduction très concrète sur ce patient, vous voyez, il a une tique qui est implantée, on prend une paire de pinces fines et on tire sur la tique, et vous voyez que ça tire la peau assez fortement et que la tique résiste. Elle est vraiment très bien implantée parce qu'il y a ce harpon, et deuxièmement parce que la tique secrète ces substances gélatineuses dont je vous en ai parlé. Alors, on peut l'enlever soit par l'intermédiaire de ses pinces, en faisant ce geste qui est ici, en la retirant dans le sens où elle a été implantée, donc il faut des pinces fines, ou alors on peut acheter ces petits dispositifs. J'ai pas d'action dans la société, hein, je vous rassure. Il y a un dispositif pour l'adulte et un dispositif pour les nymphes. Il est un peu plus difficile à mettre au point, puisque les nymphes sont petites, donc l'instrument est plus petit. Dans tous les cas, on va glisser cette partie sous la tête de la tique, au niveau des pièces buccales. On ne fait pas du tout le biais, même si ça a une allure de pied de biche, et on va tourner pour déstabiliser la tique à l'intérieur de sa blessure cutanée. Et ça part très très bien. Donc l'information du public, c'est ce que j'essaie de faire, est quelque chose d'important. L'information des sujets exposés, des professionnels de santé. Dans certains pays, vous voyez, comme aux États-Unis, en Autriche, il y a des affiches, ça commence à s'implanter chez nous. On peut discuter le fait de faire une antibioprophylaxie, c'est-à-dire un traitement antibiotique prophylactique après une piqûre de tique. La position en France, en Allemagne, en Autriche, en Slovénie, c'est de ne pas le faire de façon systématique et de le discuter au cas par cas avec le médecin s'il y a un risque élevé. Ce risque élevé peut venir quand les piqûres sont multiples, quand la tique a effectué complètement son repas sanguin, ou dans les endroits où il y a un très fort taux d'infestation de tique. Alors, le traitement antibiotique, je ne vais pas le détailler ici parce que ça peut être long, c'est pour vous dire qu'il y a des protocoles antibiotiques qui sont proposés à la fois pour la phase primaire, l'érythème migrant dont je vous ai parlé, ce sont des traitements par voie orale. Il y a deux types de molécules qui sont principalement utilisées, c'est soit de l'amoxicilline, soit de la doxycycline. Au stade, chez les enfants, il y a d'autres protocoles qui sont proposés. Et au stade secondaire et au stade tertiaire, selon le type de manifestation, on va utiliser différentes molécules. Ça peut de nouveau être la doxycycline ou l'amoxicilline, mais c'est souvent des traitements soit plus prolongés, soit par voie intraveineuse. Un petit peu long, c'est moins qu'on puisse dire. Donc je voudrais conclure en parlant de quelques petits points. La première chose, c'est la diversité des maladies transmises par les tiques qui augmente. En fait, c'est pas la diversité qui augmente, c'est le niveau de connaissance que l'on en a. Aux États-Unis, on connaît trois maladies transmises par les tiques, la babésiose, la borréliose dont je viens de parler, et puis une autre pathologie qui s'appelle l'anaplasmose. On sait qu'au niveau européen, cette diversité est plus importante, je vais y revenir tout à l'heure avec deux diapositives dans le cadre de questions, mais elle est plus importante et il est important de connaître ces différentes maladies. Pourquoi ? Eh bien parce que si la maladie de Lyme est la plus fréquente des maladies transmissibles par les tiques en Europe, ce n'est pas la seule. Et devant une maladie de Lyme atypique, devant des symptômes survenant après une piqûre de tique, il faut savoir penser aux autres maladies transmises par les tiques. La notion qui suit est tout à fait importante, c'est de ne pas faire reposer le diagnostic uniquement sur la sérologie ou sur la biologie, quelle qu'elle soit, mais ce diagnostic repose toujours sur un trépied, à la fois sur la clinique, sur l'épidémiologie et sur les outils biologiques. Ça, c'est très important pour ne pas faire de faux diagnostics. Donc, la première ligne dont je viens de parler. Ensuite, d'interpréter la sérologie toujours en fonction du stade clinique. On dit parfois que cette sérologie, elle est très fréquemment négative. Eh bien, elle est effectivement fréquemment négative au stade primaire de la maladie, au stade de l'érythème migrant, qui est malheureusement très fréquent. Mais d'un autre côté, on sait très bien le traiter. Eh bien, à ce stade-là, le diagnostic n'est pas sur la sérologie. Toutes les recommandations des différents pays européens sont bien claires là-dessus, ne pas faire de sérologie à ce stade. Donc les fabricants de tests biologiques ne sont pas toujours très contents de ce que je dis, mais la réalité est là. Le diagnostic de l'érythème migrant, il est sur la base des signes cliniques que constate le médecin, et s'il a un doute là-dessus, il doit demander l'aide d'un dermatologue. Enfin, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de vaccin actuellement contre la maladie de Lyme. Il y a un vaccin contre un virus transmis par les mêmes tiques Ixodes ricinus, qui est le virus TBE, qui est un flavivirus qui donne
de la fièvre qui donne des atteintes ménagées, pas tout à fait pareil que de la salmonelle, donc il ne faut pas confondre les choses. Il n'y a dans aucun pays d'Europe de vaccin pour l'instant disponible pour la maladie Lyme. Je pourrais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais la deuxième partie est celle qui est importante. Comme il n'y a pas de vaccin, eh bien la prévention est essentielle. Elle peut être extrêmement efficace à condition qu'on prenne chacun notre destin en main par les règles de prophylaxie dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je crois que...